Every day, anywhere, anytime, the Digital Gaspoon Channel, Ebenezer International, your station.
Vous écoutez Sociopod sur la radio chrétienne Ebenezer International, the Digital Gaspoon Channel. Mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonjour et merci de m'accueillir chez vous avec ce nouveau numéro de Sociopod. Je suis votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis la France métropolitaine dans le Val d'Oise. Et ce m'est un grand plaisir de vous conter des nôtres. Dans ce nouveau numéro de Sociopod, vous allez découvrir le parcours de notre invité spécial, Monsieur Francis Métivier, professeur de philosophie, également un conférencier très connu. Nous l'avons découvert suite à l'une de ses publications dans le journal Métro, la section Tribune Libre, un article qui a eu pas mal d'écho dans la communauté haïtienne en France. Et c'est à la suite de cette intervention que nous l'avons contacté pour réaliser ensemble cette émission afin de vous permettre de faire sa connaissance. D'ici quelques instants, nous l'aurons avec nous. Mais juste avant, je vous propose ce premier titre que va nous interpréter l'artiste Daniel Piala, Tom Petit Tom. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Sociopod. Hello and welcome on the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International, your station. I'm your friend, podcaster Frank Louis Steele, speaking from France, being back with this new edition of Sociopod, where we will welcome the philosopher Francis Métivier, a French philosopher. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. Stay in there, peach. Zami kap koute mwadou bonjour et merci parce que ou recevoir Radio Sala Kayo avec nouveau numéro programme Sociopod. Moi c'est Zami ou Frank Doristil kap pale avec ou depuis pays la France. Et c'est avec un pile plaisir jodi a nou pral fò découvri un bon ami Haïti. C'est un professeur nan philosophie lié nan pays la France. Et nou te découvri l'après, li te publié un article très intéressant nan un journal français qui rele Métro. Kote l tap pale de situation pays nou Haïti qui te touché en pile moun nan communauté. M'espère ou après te branché ou pa kite radio a pour aller tande yon lot. Pendant que Monsieur Métivier, Francis Métivier, a préparé pour le capable d'intervenir dans l'émission. Moi, c'est un mot Franck Doristil qui a parlé avec vous depuis pays la France. Et me profiter du programme pour me envoyer une grosse salutation à tous les amis haïtiens natifs natal qui ont écouté, soit en Haïti, dans le pays, les États-Unis, la France, Canada, Belgique, quel que soit côté où vous avez suivi le programme. Martinique, Guadeloupe, La Réunion, nous voyons gros salutations pour vous et nous disons merci parce que vous captez Radio Salakayo. L'artiste Daniel Piala, Tom Petit Tom. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous écoutez Sociopod.
Construire petit homme, on est si fiers de t'accueillir. Nous qui t'avons tant désiré, te voilà donc, petit homme, dès ton premier souffle de vie. Notre univers a chaviré, ce n'est pas rien, petit homme, ce sentiment de devenir un peu plus important. Je voudrais tant, petit homme, t'offrir le meilleur avenir, t'offrir le plus grand. Tom, Tom, petit homme, la vie te tend les bras, Tom. Toujours le meilleur, n'écoute pas, petit homme, ce qui voudrait te proposer des joies qui détruiraient ton cœur. N'oublie jamais, petit homme, qu'on n'est que de passage ici. Regarde au loin ailleurs et tu verras, petit homme, les choses avec d'autres couleurs.
Daniel Piala, c'est le moment maintenant d'accueillir l'invité du jour. Monsieur Francis Métivier, je vous salue très amicalement et vous remercie d'avoir fait ce grand sacrifice pour nous être disponible aujourd'hui à l'émission Sociopode. C'est un agréable plaisir de vous avoir avec nous. Je vous souhaite la bienvenue à l'antenne de la radio chrétienne Ebenezer International. Monsieur Francis Métivier, je vous salue très amicalement et vous remercie d'avoir donné cette suite positive à mon invitation pour participer à ce numéro spécial de Sociopode sur nos ondes. Je vous souhaite la bienvenue tout en vous remerciant d'avoir fait ce grand sacrifice, cet énorme sacrifice pour nous être disponible aujourd'hui.
Écoutez, c'est un honneur pour moi d'être invité sur une radio haïtienne. C'est pas du tout un sacrifice, c'est un grand plaisir. J'étais de passage à Paris et voilà. Le hasard a fait qu'on a pu se rencontrer, et surtout le désir de se rencontrer.
Monsieur Métivier, je n'ignore pas le fait qu'il soit un peu difficile de se présenter soi-même. Mais pour nos amis qui vous découvrent pour la toute première fois, voudriez-vous nous dire qui est exactement Francis Métivier ?
On va essayer de rester très objectif. J'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, je suis professeur de philosophie. C'est une discipline que j'enseigne depuis 24 ans. L'âge de 24 ans, et ça fait 24 ans. Ce qui nous fait 24 x 2, 48, voilà, le compte est bon.
C'est bien équilibré. Monsieur Métivier, c'est à partir de l'une de vos publications dans le journal Métro, un journal parisien très connu, très lu, que j'étais tombé sur vous. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette réflexion si profonde sur la situation actuelle du peuple haïtien?
Oui, j'ai fait paraître deux articles dans le journal Métro. Un premier sur les élections, que j'ai écrit donc au moment du premier tour des élections, et puis un deuxième plus récent, un an après le séisme d'Haïti. J'entretiens un lien très très fort et très profond avec Haïti, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir tout à l'heure si vous voulez. Mais voilà, j'ai un attachement très particulier avec ce pays, avec la situation de ce pays.
Nous reviendrons sur cette question, comme vous venez de le dire, dans la dernière partie du programme. En attendant, dites-nous, Monsieur Métivier, pourquoi avez-vous choisi la philosophie comme discipline parmi tant d'autres?
Alors, si on veut faire la genèse de ce choix, sans remonter à la petite enfance, bien sûr, en classe de quatrième, j'ai commencé à faire du grec, un petit peu par désir de découvrir quelque chose de nouveau. Et Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d'Adrien, dit que le grec, dans ses lettres, en fait, est très dépaysant. Effectivement, le premier sentiment que j'ai éprouvé en commençant le grec ancien, c'est un sentiment de dépaysement, d'une nature que j'ai pas pu évaluer à l'époque. Mais, et pour le faire vite, de fil en aiguille, le grec en quatrième, bon, m'a amené à la philosophie grecque, non pas en quatrième, mais plutôt en seconde, où là, on a commencé à traduire des extraits de Platon, des extraits plus narratifs que philosophiques, et à partir de la seconde et de la première, je me suis intéressé à la philosophie comme non plus quelque chose de dépaysant comme le grec, mais comme d'une part une approche de l'humanité, une approche spécifique de l'humanité, et peut-être aussi, mais ça c'est lié à la jeunesse, peut-être la capacité que peut avoir la philosophie à résoudre certains problèmes de l'humanité. Mais ça c'est, voilà, depuis le lot a coulé...
Pour certaines personnes, un philosophe est un être spécial, faisant partie d'un monde imaginaire, purement imaginaire. Quelle est votre conception personnelle d'un philosophe, un vrai philosophe?
Un vrai, je ne saurais pas répondre à cette question. Moi, ce que je constate, notamment en France, c'est qu'il y a, il y a deux catégories de philosophes ou de professeurs de philosophie. Il y a les philosophes qui ont pour but d'enseigner la philosophie à ceux qui deviendront à leur tour des philosophes, ou plutôt des professeurs de philosophie, qui à leur tour formeront des professeurs de philosophie. J'ai enseigné 10 ans à l'université, en faculté de philosophie, et puis je me suis aperçu que c'était très intéressant, c'est très pointu, c'est très technique, c'est très érudit, mais on tourne en rond finalement. Donc, je me suis souvenu un petit peu des philosophes antiques, au bout d'un certain temps, qui faisaient de la philosophie, non pas une discipline théorique, mais plutôt un mode de vie. Pensons à Diogène qui vivait dans son tonneau, je ne dis pas qu'il faille vivre dans un tonneau, mais enfin bon, il mettait en application quand même. Enfin, il y avait une adéquation entre sa pensée et son action. Et je me suis dit que peut-être que le rôle du philosophe, c'est aussi de s'ouvrir aux non-philosophes, aux non-spécialistes en philosophie, mais à des gens qui, somme toute, ont une demande en matière de philosophie. Et c'est dans cette voie que je me suis alors engagé. Ceci dit, qu'est-ce qu'un vrai philosophe? Ça, je ne sais pas.
Mais en résumé, c'est quoi un philosophe? C'est qui un philosophe?
Un philosophe, de façon très générale, c'est une personne qui essaie de soit de trouver le sens des choses, soit, si les choses n'ont pas de sens, qui essaie de donner un sens aux choses. La vie, je dirais, est invivable si elle n'a pas de sens, en quelque sorte. Alors, soit la vie a un sens et on essaie de la trouver, soit elle n'en a pas, on essaie de lui en donner un, ce qui a un petit côté artificiel, mais je pense qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le sens de la vie. Mais...
Ça ne faisait pas partie de notre questionnaire, mais quand même, est-ce qu'il y a des méthodes très très particulier qu'utilise le philosophe pour essayer de donner ce sens à ces choses qui n'ont pas ou dont leur sens s'échappe à certaines personnes.
Je pense qu'il y a une multitude de méthodes.
Par exemple,
la méthode la plus courante, c'est d'aller lire les autres. C'est-à-dire que c'est peut-être un sale réflexe, mais quand on veut trouver un sens à quelque chose, souvent, au lieu de s'interroger soi-même, on va chercher dans les livres. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise méthode. C'est une bonne méthode à condition que cette méthode permet ensuite de faire en sorte qu'on s'interroge par soi-même. Mais voilà, je crois qu'il y a une expérience philosophique depuis l'Antiquité. Enfin, en tout cas, de ce que l'on connaît, il y a sûrement des philosophes inconnus avant l'Antiquité grecque. Et je pense que commencer par les lire, et sans forcément ensuite avoir une attitude dogmatique vis-à-vis d'eux, c'est une bonne entrée en matière.
Donc quelqu'un qui veut développer sa connaissance philosophique, ou bien qui veut apprendre à philosopher, le premier pas, ou bien l'un des premiers pas, c'est d'aller lire les autres.
Moi, je pense que c'est un pas qu'il faut faire, oui. Avec la nécessité aussi de réfléchir par soi-même, c'est-à-dire la feuille blanche.
Je ne voudrais pas banaliser cette science si complexe, mais surtout permettre à nos auditeurs de s'y trouver ou de s'y retrouver. Comment définissez-vous, professeur ou docteur Métivier, la philosophie? Comment la définissez-vous?
C'est de fait, aujourd'hui, notamment en France, la philosophie, c'est une science, vous l'avez dit, c'est un savoir universitaire, avant tout. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la philosophie, c'est également un mode de vie. C'est-à-dire que ce qui intéresse notamment les philosophes de l'Antiquité, auxquels je suis très attaché, c'est l'adéquation entre la pensée et l'action. Donc un philosophe malheureux, si vous voulez, c'est un philosophe qui n'arrive pas à vivre conformément à ses convictions. Et je crois malheureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de philosophes, passez-moi l'expression, s'assoient sur leurs idées, sur leurs convictions, et ont une vie qui n'est pas forcément en accord avec leurs pensées. Donc, moi, un philosophe vrai, je ne sais pas, mais authentique, voilà, ce serait quelqu'un qui serait avant tout, dans sa vie concrète, attaché à ses idées.
Est-ce qu'il n'existe pas des philosophes qui le sont, mais qui n'en sont pas conscients?
Très
des
certainement.
Des gens qui ont une vocation philosophique, mais qui ne s'en rendent pas compte, ou bien qui n'ont jamais trouvé quelqu'un pour leur dire « Ah, tu es un philosophe ».
Bon, en France, il y a toujours l'idée d'une reconnaissance officielle des choses. Donc, si on est philosophe, c'est qu'on a un titre. Je pense par ailleurs, effectivement, qu'on peut être philosophe au sens où on s'interroge sur le sens des choses. Et là, il n'est pas nécessaire de posséder un titre universitaire. Un exemple. Je suis très attaché à l'idée d'une certaine philosophie haïtienne qu'on pourrait appeler une philosophie de la catastrophe. C'est-à-dire que ce n'est pas la philosophie universitaire d'Haïti, mais les gens, c'est ce que j'ai observé en tout cas, et c'est ce que j'ai entendu aussi en parlant avec certains Haïtiens, dans des circonstances extrêmement dramatiques, et pour des raisons de survie, sont obligés de développer pour eux-mêmes et pour leurs proches une idée de l'existence. Et ce, dans le drame et dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut... Même si effectivement tout cela est très meurtrier et très dramatique, il faut que tout cela ait un sens. Alors c'est peut-être aussi les circonstances, c'est peut-être le drame aussi qui rend philosophe d'une certaine manière. Parce que pour s'interroger sur l'existence, il faut vivre des circonstances qui déclenchent cette réflexion. C'est-à-dire que l'homme heureux, je pense que l'homme heureux ne fait pas de philosophie. On dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire. L'homme heureux n'a pas besoin de faire de la philosophie. Il y a un certain malheur, en fait, individuel ou social, qui, alors de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, du vieillard, il y a un malheur qui peut déclencher la réflexion philosophique. Donc, dans la mesure où il n'y a pas que les philosophes qui soient malheureux, d'une certaine manière, un certain malheur peut nous obliger à réfléchir et à réfléchir de façon approfondie. Et là, effectivement, on est dans une certaine philosophie.
Merci bien pour ces précisions. Nous allons d'ici peu prendre une pause musicale avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Mais il nous reste quelques petites questions à vous poser, Monsieur Francis Métivier, notre invité. Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à comprendre qu'il est doué pour se lancer dans des études philosophiques?
Comprendre qu'on est doué pour ça. Quand on commence à faire des études de philosophie, passez-moi l'expression, on se la joue un peu. D'un côté, on essuie parfois les moqueries des autres. Comme disait Épictète, tu veux faire de la philosophie, d'accord, mais accepte aussi qu'on se moque de toi. Donc c'est ambigu. On commence à faire de la philosophie, on en tire un certain prestige, en même temps on peut être l'objet d'un certain mépris. Donc c'est plus un désir, si vous voulez, de faire de la philosophie. C'est plus une attirance vers une c'est une intuition en fait. L'intuition, on ne sait pas trop où on va, c'est comme un voyage. On a des renseignements sur le pays dans lequel on veut aller, on a des images, et puis on y va, c'est-à-dire qu'il y a comme une aventure. Là, c'est une aventure intellectuelle, on ne sait pas trop où on va, on a envie d'y aller, il y a quelque chose d'irrésistible. C'est pas que pour jouer sur les apparences, il y a quelque chose de profond. Disons qu'au passage, on en profite un peu, mais il y a un appel. Il y a un appel vers une recherche.
Donc on ne se lance pas comme ça dans la philosophie. Voilà, je veux devenir philosophe. Il faut sentir cette vocation en soi et y répondre fidèlement.
Oui, je crois. Oui.
Vous êtes sans doute très bien placé pour nous aider à comprendre la place ou l'importance de la philosophie dans la vie en général. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, sans exprimer la banalité qui consiste à dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont philosophes tout en s'ignorant en tant que tels, je crois en revanche qu'effectivement beaucoup de personnes s'interrogent sur la signification des choses. Et il y a aussi une philosophie ordinaire qui se développe chez les personnes.
Et la dernière question pour fermer cette parenthèse, vous avez enseigné et enseigne encore la science philosophique à l'université et dans les écoles. Que vous ont apporté ces années d'expérience?
Alors, mon vrai métier, mon travail d'enseignant consiste à enseigner donc la philosophie en lycée. Quand je dis ça fait 24 ans que j'enseigne, c'est j'enseigne en lycée. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'enseigner à l'université, faculté de philosophie, faculté de médecine aussi, pour des cours d'éthique médicale. Et là, à l'occasion, j'interviens dans des écoles de commerce. Le vrai travail de fond se fait dans les lycées, se fait en terminale. Notamment en terminale littéraire, on voit les élèves 8 heures par semaine. Et on voit, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais entre le mois de septembre et le mois de juin, on les aura vus grandir intellectuellement, enfin, pas tous, mais alors voir grandir intellectuellement c'est une image, mais on les voit évoluer et ça c'est très intéressant. Le travail dans l'enseignement supérieur est un travail plus ponctuel, plus sporadique. On enseigne, on corrige, on discute un peu. Mais il n'y a pas ce rapport intellectuel permanent, en fait, qu'on peut avoir avec des élèves de terminale. Je parle d'EL, mais c'est pareil pour les autres séries, sauf qu'on les voit moins sur un nombre d'heures moins important. Mais il y a quelque chose de régulier. Voilà. Pendant 9 mois, c'est comme une gestation mentale. On les voit, ils nous parlent. On les interroge, ils répondent, on les lit, très important de lire les autres. On les corrige, ou entre guillemets, on les rectifie, enfin on fait en sorte que intellectuellement ils développent leur potentiel.
Merci bien, Monsieur Métivier. Nous allons prendre une pause musicale avec une artiste québécoise que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Andréane Lafleur et qui sera aussi notre invitée dans une édition spéciale de Mekonak. Vous nous avez dit tout à l'heure que le philosophe essaie de donner un sens aux choses quand il réalise ou bien quand il arrive à mettre sur place ce sens, il utilise des mots pour l'expliquer, mm-hmm. pour transmettre cette connaissance philosophique à d'autres personnes. Les mots, des mots, c'est ces choses-là que vous manipulez tout le temps. Oui. Mais les mots ne font pas toujours du bien. Il y a des mots qui blessent, des mots qui découragent, des mots qui froissent.
Les mots philosophiques sont précisément des concepts. La liberté, la conscience, le bonheur, le pouvoir. Ce sont des concepts un peu froids, mais je dirais inoffensifs. Après, ça dépend comment on les manipule. Mais le concept philosophique, il a pour fonction d'essayer de saisir une réalité immatérielle, en fait. De parler de quelque chose qui existe, qui est réel, mais qui est matériellement impalpable, en quelque sorte. Ce qui peut faire mal en philosophie, effectivement, ce ne sont pas les mots. Parce que les mots philosophiques sont des concepts et ce ne sont jamais des injures, en quelque sorte. Mmh. Hein. Même les mots délicats, les concepts délicats comme le concept de jugement, on peut juger l'autre, le concept de pouvoir, le concept de violence, mm-hmm. il peut y avoir des concepts effectivement très délicats. Mais les mots en eux-mêmes ne font pas mal. Par contre, ce qui peut faire mal en philosophie, ce sont les doctrines, mm-hmm. c'est-à-dire la façon, l'orientation qu'on donne aux concepts et les thèses que l'on peut développer. Là, effectivement, la philosophie peut devenir dangereuse quand on devient dogmatique et surtout lorsqu'on veut imposer aux autres, à un pays tout entier, mmh. ou à l'humanité tout entière, des thèses qui ne sont que des thèses particulières, mais qui, pour le sujet qui les a élaborées, ou pour le sujet qui adhère à ces thèses, valent pour vérité universelle. Là, effectivement, la philosophie peut être dangereuse. Gavroche chante « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. » Bon, peut-être que les philosophes, et Rousseau n'est pas le plus dangereux, peut-être que certains philosophes ont lancé certains hommes sur des chemins qui sont devenus des chemins de la violence.
Notre première pause musicale avec l'artiste québécoise Andréane Lafleur, « Nos mots ont un pouvoir ». Je vous souhaite une agréable écoute.
Passé par là plusieurs fois, je sais pas pourquoi, mais ça me rend tout que je sois. Je crois qu'elle en monte un pouvoir. Oh yeah. Dès mon enfance, on m'a tellement ridiculisé. Peut-être ma tête qui n'aimait pas pour qu'il me jurisse sans se lasser. Je crois qu'elle en monte un pouvoir.
Je crois que dans mon monde, on peut voir.
C'était Nos mots ont un pouvoir avec l'artiste québécoise Andréanne Lafleur que nous aurons la joie d'accueillir dans une édition spéciale de Mykonak, une rubrique qui vous permet de mieux comprendre le parcours des artistes chrétiens sur cette radio. Rejoignons maintenant notre invité, le professeur en philosophie Francis Métivier.
L'éthique est aussi l'une de vos spécialités. Oui. Les différentes conférences et colloques auxquels vous avez pu participer comme intervenant l'ont prouvé. Pouvez-vous nous différencier l'éthique de la philosophie? Quelle est la place de l'une et de l'autre?
Alors, on ne peut pas trop différencier la philosophie et l'éthique dans la mesure où l'éthique est une partie de la philosophie. Voilà, l'éthique, c'est un élément d'un ensemble qu'on appelle la philosophie. Philosophie, il y a différentes branches, hein. Il y a la philosophie de l'art, il y a la philosophie de la conscience, il y a la philosophie de l'histoire, et il y a aussi ce qu'on appelle la philosophie de l'action. Philosophie de l'action, c'est-à-dire réfléchir sur les principes et les valeurs de nos actions, c'est la définition de l'éthique. On pourrait parler de la différence qu'il y a entre l'éthique et la morale, mais voilà, l'éthique, on peut la concevoir comme une science de la morale et comme une réflexion sur les principes et les valeurs qui peuvent nous guider dans nos actions quand nos actions ont besoin d'être réfléchies. Ceci dit, depuis un certain temps, il est vrai que l'éthique, c'est une discipline ou une pratique qui est également prise en charge par des professionnels qui initialement ne sont pas des philosophes, mmh. puisque on parle d'éthique médicale, on parle d'éthique de la recherche biomédicale, on parle d'éthique de l'entreprise, on parle d'éthique de la communication. Alors, même si l'éthique possède un fondement philosophique, hein, ce que j'ai dit, c'est vrai que cette définition de l'éthique s'ouvre un petit peu. L'éthique est devenue interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Je prends un exemple. Quand une école supérieure de commerce veut ouvrir un cours d'éthique, la question qui se pose, c'est à quel département on va rattacher l'éthique. Est-ce qu'on rattache ça au droit? Est-ce qu'on rattache ça aux ressources humaines? Est-ce qu'on rattache ça à la finance? Parce qu'il y a aussi une éthique de la finance, c'est un volet important. En général, on se dit, tiens, si on faisait appel à un philosophe qui arrive pour dire que effectivement l'éthique, si je prends l'exemple de l'entreprise, l'éthique a à voir avec la plupart des secteurs de l'entreprise, puisque dans tous les secteurs d'une entreprise, il y a, ou de l'entreprise en général, il y a des problèmes d'ordre éthique qui se posent. Voilà, donc l'éthique fondamentale appartient à la philosophie. Les deux ne sont pas dissociables, mais il y a cette éthique appliquée, professionnelle, qui, sans échapper à la philosophie, quitte un peu la philosophie pour entretenir des liens avec d'autres domaines. Mais ça, c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire que, effectivement, la philosophie, plutôt l'éthique philosophique, ne reste pas fermée sur elle-même et qu'elle s'ouvre à la société.
Merci pour toutes ces lumières. Je pense d'ici la fin de l'émission, tous nos auditeurs seront transformés en de vrais philosophes.
Ça, c'est un travail qui regarde les personnes elles-mêmes. Moi, je ne peux rien faire pour ça.
Bon, c'était une petite parenthèse. Monsieur Métivier, il y a des termes qui vous sont très chers, tels que l'amour, la vérité, la maîtrise de soi, etc. Seriez-vous croyant par hasard ?
Je me pose encore la question. Je crois que je me poserai la question jusqu'à ma mort. Je pense que la mort... et peut-être au-delà sera la réponse à cette question. En attendant, je ne sais pas. Je crois en Dieu, mais ce Dieu n'est pas le Dieu d'une religion officielle et instituée. Je ne suis pas croyant au sens catholique, même s'il m'arrive d'aller à l'église sans raison, d'une certaine manière. Mon Dieu, est un peu le dieu des philosophes, en quelque sorte. Pas un dieu au sens classique, au sens voltairien, déiste, c'est-à-dire que j'ai du mal à ne pas croire en l'existence d'un être qui organise la matière. Qui crée la matière, ça je sais pas, mais en tout cas qui l'organise et qui fait tout pour éviter la notion, enfin, les phénomènes de chaos. Mais je crois que cet être-là existe, et par sentiment et par déduction rationnelle, parce que le philosophe fonctionne sur les deux plans. Mais ensuite, effectivement, j'ai toujours eu du mal à raccrocher cette croyance à des dogmes officiels, à des églises instituées. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, ça c'est, je dirais, toujours la manie du philosophe qui consiste à vouloir se faire remarquer.
Et voyez-vous un certain rapport entre la religion et la foi ? La philosophie est-elle présente dans la Bible, l'un des manuels le plus utilisé par les croyants, ou certains croyants ?
Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a de la philosophie dans la Bible ?
Oui.
Oui, forcément, oui, puisque si on veut définir la philosophie, et notamment l'éthique ou la morale, comme une réflexion sur des règles de vie, ou sur des principes de vie, oui, il y a une philosophie biblique, ça c'est indéniable.
Oui. Dans votre thèse de doctorat, vous avez à un certain moment comparé l'amour de l'homme à l'amour de Dieu. Est-ce une allusion basée sur vos recherches personnelles ou du vécu ?
Plutôt sur des recherches liées à l'auteur, hein, qui était l'objet de ma thèse, c'est-à-dire le philosophe danois Kierkegaard. J'ai fait une thèse sur le concept d'amour chez Kierkegaard. Et ce qui est très intéressant chez ce philosophe danois, c'est que le concept d'amour est analysé sous différents angles. Hein, l'amour au sens sexuel du terme, il y a des analyses, et c'est assez rare hein, en philosophie, l'amour au sens fraternel, et puis l'amour humain, c'est-à-dire l'amour de prédilection, hein, les gens qu'on aime parce que, d'une certaine manière, on choisit de les côtoyer. Et puis Kierkegaard, puisque c'est en même temps qu'il est philosophe, il est théologien protestant, donc il parle aussi de l'amour de Dieu, l'amour chrétien. La distinction qu'il fait, c'est une distinction assez classique, qui consiste à dire que l'amour de l'homme est un amour de prédilection, alors que l'amour de Dieu, est, dans les deux sens du terme, hein, est un amour qui ne fait pas la différence finalement entre les hommes, puisque chacun est censé être digne de l'amour divin. Voilà, donc c'est l'analyse de différentes manifestations de l'amour dans l'humanité.
Vous avez donné votre définition, pas votre définition, votre compréhension de Dieu. Vous avez laissé une place pour un être ou une intelligence supérieure qui a organisé les choses. Vous n'avez pas utilisé le terme création, mais vous pensez qu'il y a un être intelligent qui a donné naissance ou bien qui a formé la matière. Est-ce que chaque philosophe a une définition de son propre Dieu ou bien c'est une conception générale qu'on trouve chez presque tous les philosophes?
Non. On ne peut pas dire que chaque philosophe ait une conception très singulière de Dieu. On ne s'en sortirait pas, mais moi, quand j'exprime cette conviction à l'égard de Dieu, je me rattache effectivement à des idées philosophiques assez classiques, hein, assez traditionnelles, l'idée d'un Dieu architecte. J'ai du mal à concevoir une intelligence supérieure qui aurait créé
la matière. Moi, là, je reste assez, je dirais, scientifique. Par contre, effectivement, je crois pas trop au hasard. Et une fois que les matériaux sont là, je crois qu'il y a un être qui est là pour les organiser, et puis malheureusement un autre, qu'on peut appeler le mal, qui est là pour, au contraire, les désorganiser.
Bon, c'est pas une rubrique théologique, sociopode, c'est plus socioculturel. Nous allons fermer cette parenthèse un petit peu théologique, théophilosophique, pour continuer notre réflexion sur la philosophie. Est-ce que pour vous, la philosophie peut être utile à quelqu'un qui veut voir la vie différemment dans le sens du bien, en tournant le dos vers le mal? Est-ce que la philosophie peut l'aider à voir la vie autrement, de façon positive?
Non, j'en suis pas intimement convaincu. Les choses restent ce qu'elles sont, la réalité est ce qu'elle est, et la philosophie sert en quelque sorte à mieux cerner la réalité telle qu'elle est, éventuellement, je dis bien éventuellement, à mieux l'accepter. C'est-à-dire que je pense pas que la philosophie nous mette sur la voie du bonheur. Je pense que, enfin, peut-être que la philosophie peut créer cet espoir, mais la philosophie nous met plutôt sur la voie de la lucidité. C'est prétentieux, mais quand on essaie de comprendre les choses, on essaie de les comprendre avec une certaine lucidité. Il n'est pas sûr que la compréhension des phénomènes humains, naturels, sociaux, etc., il n'est pas certain que cette compréhension des phénomènes nous apporte le bonheur, puisque effectivement, on peut être amené à comprendre des réalités dramatiques. Alors après, ça ne veut pas dire pour autant qu'on tombe dans le pessimisme. Moi, j'ai tendance à penser que je suis plutôt optimiste. Mais l'optimisme, je le définis plutôt comme une force de résistance. Comme on dit en Haïti, Kembe palagé, tiens, mais ne lâche pas. Voilà, l'optimisme, il n'est pas béat, c'est avant tout le courage de résister. Mais comprendre les choses telles qu'elles sont, c'est aussi en grande partie comprendre le malheur des choses. Et ça, il faut le supporter. Et puis il faut surtout, et c'est très important, rencontrer des gens qui font la même démarche, philosophe ou pas philosophe d'ailleurs, se tenir le coude. Parce que si on est tout seul au fond de la mer, à couler comme le fait Descartes à un moment donné quand il se met à douter de tout, et qu'on n'a pas quelques personnes autour de soi pour remonter ensemble, on est perdu. Donc, autre image que je n'aime pas du philosophe, c'est la personne solitaire. Il y a des philosophes solitaires, mais c'est pas une bonne démarche.
Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui, après une déception quelconque, décide, de mettre fin à sa vie. Bon, je suis nul, je ne vaux rien, on m'a laissé tomber, on m'a dit que je suis un idiot. Puis la personne a pris la décision de mettre fin à sa vie radicalement. Est-ce que la philosophie peut l'aider à redonner du sens à sa vie, en dépit de cette déception?
Déjà, la personne peut avoir envie de se suicider parce qu'elle a lu Schopenhauer, qui fait une sorte, pas d'apologie du suicide, mais presque. Donc, c'est-à-dire que le désir de se suicider peut recevoir une justification philosophique. Je ne dis pas que la philosophie pousse au suicide, mais enfin, si on lit Schopenhauer, la seule manière de mettre fin à ses souffrances, c'est de mettre fin à sa vie. Bon. Mais bon, laissons Schopenhauer. Je pense que la personne qui veut se suicider doit d'abord consulter un médecin. Enfin, soyons terre à terre. Je pense que pour faire de la philosophie, là aussi c'est peut-être un peu prétentieux, mais il faut déjà bien s'établir dans une capacité de résistance, dans une forme de stabilité. Bon, faut poser un petit peu son orgueil, d'une certaine manière. Si on est dans une phase d'autodestruction, je pense que l'urgence, elle n'est pas philosophique, elle est médicale. Après, la philosophie peut venir, effectivement, pour renforcer un petit peu la vitalité et les choses. La philosophie, c'est comme la reine rouge dans le livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, où on court, et puis on s'aperçoit qu'en fait, on fait du surplace. Et mmh. Alice demande à la Reine Rouge, oui, on court, mais on n'avance pas. Et la Reine Rouge répond, oui, mais on court pour stagner. C'est-à-dire que si on ne court pas, on recule, et là, on meurt. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait, ce sont des efforts pour rester en bonne santé mentale, en quelque sorte, ou pour rester en vie. Pour progresser, pas tellement, en quelque sorte. Mais si ces efforts-là, on ne les fait pas, on est mort, en quelque sorte.
Ils sont un peu les philosophes relativistes.
Oui, il faut.
Et ça aide à avoir plus d'équilibre.
Moi, je pense, parce que si on donne aux choses un caractère absolu, que ces choses n'ont pas, puisqu'on vit dans une réalité matérielle, on finit par tomber de haut. Donc je pense qu'il vaut mieux effectivement être raisonnable, relativiser les choses sans non plus naviguer dans l'incertitude permanente, mais relativiser les choses. L'équilibre, il est possible que s'il y a deux pôles extrêmes, donc effectivement il faut toujours qu'il y ait ces pôles extrêmes.
Beaucoup de gens cherchent à trouver le sens de la vie ou de leur vie. Qu'en est-il pour vous ?
Ben, je le cherche encore. C'est-à-dire que j'ai des certitudes, le mariage est une certitude, le fait d'avoir des enfants est une certitude, le fait d'enseigner la philosophie, d'avoir des élèves est une certitude. Mm-hmm. Tout ça, ce sont des choses qui sont acquises. Après, il y a la chanson qui dit « Rien n'est jamais acquis », mais il y a quand même ce sentiment tout à fait fondé d'une vie qui se remplit. De façon solide.
Et quelqu'un, par exemple, qui nous écoute, qui n'est ni marié, qui n'a ni femme, ni enfant, qui n'est ni professeur de philosophie, qui n'a ni boulot, qui n'a rien du tout. Quel est le sens de la vie de cette personne, si jamais elle se la demande ?
Non, je ne dis pas que le sens de la vie se trouve dans le fait d'être marié, d'avoir 5 enfants et d'être professeur de philosophie. Ça, c'est le sens que j'ai eu la chance de trouver dans ma vie qui s'est construite petit à petit. Bon, et peut-être que ma vie aurait pu tourner différemment d'une certaine manière. Bon, après, effectivement, ce que je dis là est purement descriptif. Si vous donnez une autre description, quelqu'un de célibataire ou autre, je pense qu'effectivement, il y a un sens de la vie qui peut se dégager tout pareil. Mm-hmm.
Une deuxième pause musicale s'impose avec l'artiste Philippe Decourou qui nous vient de la Suisse. Chant intitulé « Entre le rose et le noir ».
Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent.
Vous écoutez Sociopode.
Lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. À quoi bon se battre? À quoi bon souffrir? À quoi bon chercher le moyen de combattre cette indifférence qui me fait vomir? Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je connais le paradis, des sources dans le désert. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. Faut-il chanter l'amour ou hurler ma colère? À quoi bon se battre quand tu préfères au jour l'obscurité des ténèbres envahissant la terre? À quoi bon se battre? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre?
Sociopode.
Quel est le sens de ma vie? Quel avenir? Quel espoir pour moi?
des questions que chacun se pose à un moment ou à un autre. Et s'il y avait une seule vraie réponse à toutes ces questions?
Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je me battrai encore, faible parmi les forts, mais en sachant qu'un jour, quand tout aura péri, il n'y aura plus que l'amour pour vivre l'infini. Lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. Je connais le paradis, les sources dans le désert.
Vous écoutez Sociopod sur la radio chrétienne Ebenezer International, le Digital Gospel Journal, your station.
Chers auditeurs, nous abordons la troisième et dernière partie de notre programme avec un invité spécial qui nous vient de la ville de Tours. Vous ne nous avez rien dit de votre ville, Tours?
En fait, quand je dis Tours, c'est en partant du principe que les gens arrivent à situer la ville de Tours.
D'accord.
Donc, qui est en Indre-et-Loire, à une heure de TGV de Paris. En fait, précisément, j'habite la petite ville de Chinon, qui se trouve à trois quarts d'heure de Tours. Une petite ville qui a vu naître notamment François Rabelais.
Ah.
Oui. Enfin, Chinon ou Seuilly à côté de Chinon. Enfin bon, on est dans cette région, une région viticole, mm-hmm. hein, puisque le Chinon est une AOC reconnue, avait un coin avec une dimension touristique, culturelle, assez marquée. C'est un petit peu la fin des châteaux de la Loire, même si Chinon se trouve sur la Vienne. Mm-hmm. Et puis après, il y a la région angevine, qui est assez semblable finalement à la Touraine.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette ville de Chinon? Ou prenons Tours par exemple.
Tours est une ville universitaire au sens classique, avec une vie culturelle qui est celle des villes de cette taille. C'est-à-dire que je connais trop Tours pour pouvoir en parler. Là, vous me prenez de court. Qu'est-ce qu'il y a d'original à Tours? Oui, vous me prenez de court en fait là sur cette question. Moi, je parlerai plutôt de Chinon, Rabelais et le vin. Voilà, ce sont les faits marquants de cette ville où je réside.
Il n'y a pas une expression verbale très connue.
Il y a quelque chose, il y a un phénomène, c'est-à-dire que la région de Chinon, on l'appelle parfois la Rablaisie. Bon, et ça, c'est un phénomène unique en son genre où un auteur a donné lieu à un nom géographique. Les auteurs donnent lieu à des adjectifs, épicure, épicurien, Shakespeare, shakespearien. Je ne pense pas que là où est né Shakespeare, on ait donné à cette région une appellation géographique. Enfin, ce phénomène, il est, je dirais, unique avec Rabelais. On parle de la Rabelaisie, on ne parle pas de Voltaire et de la Voltairie ou des choses comme ça. Donc, c'est, au niveau langage, oui, c'est une particularité.
Donc, quand on dit la Rablaisie, ça fait allusion à votre ville, votre région?
Ça fait allusion à Rabelais, puis à un certain mode de vie qui est à la fois lié aux écrits littéraires de Rabelais, puis la façon un peu tranquille, un peu modérée dont on peut vivre en Touraine en général.
C'est une région peut-être poétique aussi, romantique.
Poétique, bon, gastronomique, viticole, oui. Enfin.
Est-ce qu'il y a des artistes connus
à Chinon même
qui sont originaires de cette région?
Ah bah de Tours, il y a des, en Touraine en général, oui, il y a des auteurs qui sont passés, comme Balzac. Hein, il a écrit Le Lys dans la vallée en s'inspirant de la vallée de l'Indre qui se trouve à Saché, à quelques kilomètres de Tours. Mmh. Il y a Alfred de Vigny qui est passé. Bergson est mort à Saint-Cyr-sur-Loire, à côté de Tours. Des naissances Rabelais, hein, j'insiste. Après, c'est plus des passages. Si, Descartes, oui, je suis bête. Descartes, le philosophe Descartes, est né en Touraine, dans le petit village qui s'appelait La Haye, qu'on a rebaptisé Descartes, et parfois on dit encore La Haye Descartes, mais c'est vrai que Descartes, le grand Descartes, je pense donc que je suis, est né en Touraine. Oui.
Quel héritage les gens gardent de Descartes dans cette région?
Oh, dans la région, pas d'héritage spécifique.
Sa façon de penser, de raisonner.
On n'est pas plus cartésien dans le village de Descartes qu'à Calard, je crois pas. Enfin, faudrait un sociologue pour analyser le phénomène. Par contre, effectivement, on est peut-être un peu plus rabelaisien en Rablaisie qu'ailleurs. Peut-être, oui.
Mais bon. Il faut que j'achète un bouquin pour apprendre l'art rablaisienne.
Je vais vous donner un petit livre que j'ai écrit c'était en 98. Qui s'intitule L'esprit du vin, la philosophie du Chinon. C'est un petit livre que j'ai fait pour m'amuser. Il est épuisé, il faut que je le réédite. Je vous donnerai un exemple.
Oh, qu'est-ce que ça nous ferait plaisir. Nous abordons, comme je l'ai dit, la dernière partie de l'émission. Mais franchement, moi, j'ai envie de philosopher avec vous toute la vie. Mais malheureusement, nous avons un temps pour commencer. Un temps pour terminer l'émission. Bon, voilà. Pour revenir à la question d'Haïti, je ne vous ai pas oublié. Quel lien avez-vous avec ce peuple, mon peuple, pour écrire un article si touchant à son sujet? Cet article dont j'ai fait allusion, que j'ai trouvé dans la revue Métro, très lue à Paris.
J'écris pas mal pour moi sur Haïti, c'est une manière de poser les choses sur le papier. Donc mes liens avec Haïti sont en quelque sorte familiaux, puisque avec mon épouse, nous avons 5 enfants et nous avons adopté deux enfants qui sont nés en Haïti. Un grand garçon qui a déjà 9 ans et puis une petite fille qui a 4 ans. Donc, si vous voulez, on a vis-à-vis d'Haïti, non pas une dette, mais un dû. Hein. Pas une dette, parce qu'une dette, on la rembourse et puis après on n'y pense plus. Le dû, il est intellectuel, symbolique, il est viscéral aussi, il est définitif. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir 5 enfants, dont 2 qui ont cette particularité de nous avoir adoptés en quelque sorte, puisque l'adoption ne peut se faire que dans les deux sens, sur des enfants qui nous ont reconnus, comme, alors qu'on n'était pas leurs parents biologiques, comme leurs parents, sans effectivement se couper d'Haïti.
Donc il semble que votre cœur parfois bat au même rythme que la situation haïtienne, parfois, je dis pas.
Je sais pas. Moi, je consulte Le Nouvelliste tous les jours, hein, le fameux journal d'Haïti, l'agence haïtienne de presse. ça, c'est ma lecture quotidienne, au même titre que La Nouvelle République du Centre-Ouest et Le Monde sur Internet. C'est-à-dire que voilà, Le Nouvelliste d'Haïti fait partie de mes lectures du matin. Donc il y a un attachement. Dans une adoption, on ne peut pas séparer l'enfant et son contexte premier. C'est impossible. Donc l'enfant, je parle en général, hein, je ne vais pas parler que de moi, mais l'enfant adopté en général grandit et garde avec son pays les liens d'origine, les liens qu'il veut garder. Mais moi, personnellement, je suis lié, malgré moi, en quelque sorte, à ce pays auquel je pense tous les jours. Tout à l'heure, dans le train, j'ai commencé le livre de Yannick Lins, Faille. Bon, voilà. Je me suis retenu 5 fois pour pas pleurer devant les gens.
vous êtes très sensible.
Bah, c'est inévitable. Je veux dire que quand je suis allé 5 fois en Haïti, à chaque fois, c'est le même choc. C'est le même choc. L'idée, c'est l'insatisfaction, l'idée qu'on a quelque chose à faire et l'idée que finalement on ne peut pas faire grand-chose et la question, où est ma place ?
Lors de notre conversation hors du micro, vous avez touché un point très sensible sur l'adoption. Il semble qu'à votre avis, l'adoption n'aurait même pas dû exister dans une société où tout fonctionne normalement. C'est...
Dans une société idéale et même une société, enfin, dans un monde convenable, l'adoption n'existe pas, effectivement. L'adoption existe comme possibilité parce que l'adoption est quelque chose qui doit mettre l'enfant en avant. C'est une des possibilités pour qu'un enfant puisse avoir peut-être plus de chances de développer ses potentiels. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à penser que dans une situation de misère extrême, les potentialités ont beaucoup de mal à se développer. Par contre, il y a quelque chose qui se développe de façon criante dans la misère, c'est le handicap et la maladie. Voilà ce qui, malheureusement, je parle d'Haïti, mais je parle de la misère en général. Qu'est-ce qui se développe ? Qu'est-ce qui s'exprime dans la misère ? Est-ce que c'est le potentiel que l'on possède ou est-ce que ce sont les handicaps que l'on possède ? Malheureusement, ce sont les handicaps.
C'est surprenant. Vous vous exprimez l'idée de la même façon que vous l'avez faite avant.
Oui.
Votre mémoire est extraordinaire. Bon. Avez-vous fait des recherches particulières sur ce peuple pour arriver à cette compréhension si flagrante de son histoire, à son quotidien ?
Oui, je suis parti des débuts, en fait, hein, des voyages d'exploration, de l'extermination des Indiens qui étaient sur cette île et qui n'y sont plus. Et puis, oui, bon, j'ai fait ce travail de lecture historique. Pour en arriver à essayer effectivement de saisir un petit peu pourquoi Haïti se trouve aujourd'hui dans cette situation. La France, évidemment, a une responsabilité énorme. Moi, à chaque fois que je vois un homme politique, j'essaie de lui dire, de lui rappeler ce qu'avait proposé Christiane Taubira en 2005 ou 2006, c'est-à-dire l'abolition de cette dette de l'indépendance qui a empêché pendant plus d'un siècle Haïti de se développer. Enfin, en tout cas, ça les a bloqués en quelque sorte. Et si, à la question « Que pouvons-nous faire, nous, en France ?», moi, je dis aux citoyens français « Allez voir votre sénateur, allez voir votre député, montrez-lui les propositions de Christiane Taubira. » Bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On ne peut pas abolir cette dette dans des conditions qui ne seraient pas raisonnables. C'est-à-dire que tant qu'en Haïti, le gouvernement sera un gouvernement, et on va rester très discret sur les mots, un gouvernement un peu opaque, voilà. Je crois, il y aura le 20 mars, hein, je crois, le deuxième tour des élections. J'espère effectivement que ces élections pourront permettre au peuple haïtien d'avoir un gouvernement qui va véritablement les aider. Et dans ce cas-là, effectivement, si le gouvernement haïtien est prêt à travailler dans l'intérêt général, cette abolition en France de la dette de l'indépendance aura un sens.
Comment le philosophe Métivier, Francis Métivier, interprète-t-il toutes ces épreuves que traverse actuellement le peuple haïtien ?
Il y a une part de malchance géographique, parce qu'effectivement, un séisme, c'est une réalité naturelle. Ceci dit, il y a un scientifique, j'ai oublié son nom, un scientifique qui avait, haïtien, hein, qui avait alerté quand même, avant le séisme, qui avait donné une alerte hein, sur des possibilités de mouvements de ce type. Mais en dehors des facteurs naturels, effectivement, il y a ce facteur historique qui traîne, et puis un manque d'entourage. La communauté internationale est là sans être là. Enfin, il y a une aide, mais elle n'est pas
elle n'est pas suffisamment encadrée, elle n'est pas suffisamment efficace.
Et l'issue de cette situation sociopolitique se dessine-t-il facilement dans votre esprit?
Moi, j'ai beaucoup d'espoir, effectivement. Je porte beaucoup d'espoir hein, sur ces prochaines élections, avec, j'espère, un président ou une présidente qui développera une politique centrée sur l'intérêt des Haïtiens.
Et si vous étiez un Haïtien vivant à l'étranger, comment viviriez-vous de loin toutes ces choses?
Je ne sais pas. Je ne peux pas. J'ai lu une phrase de Yannick Lahens tout à l'heure, mais je ne l'ai plus en tête. Qui disait en gros, Yannick Lahens ne parlait pas d'elle, puisqu'elle a vécu, elle vit en Haïti, mais d'un ami à elle qui vit à Montréal, et qui disait que le mal haïtien, que cette personne haïtienne vivant à Montréal voyait tous les jours, la personne ressentait ce mal jusqu'à une manifestation pathologique, en fait, pathologique, physique. Donc voilà, moi je lis ça, je comprends, mais bon, je sais pas ce que j'éprouverais si j'étais haïtien vivant.
Je peux de la philosophie.
Je peux pas.
Par les contre, enfants d'Haïti. Ah oui.
Non, vas-y, allez-y.
Les enfants d'Haïti vivant ailleurs peuvent-ils être heureux alors qu'ils ont laissé derrière eux famille, amis, connaissances, je ne sais pas encore. Comment peut-on vivre tout cela sans se priver de certains moments de bonheur?
Je pense que l'essentiel dans ce cas-là, c'est de ne pas couper l'enfant de son pays d'origine. Ceci dit, il se peut qu'avant l'adoption, la coupure se soit faite. Des parents décédés, des enfants abandonnés. Je crois que l'enfant est premier, en quelque sorte. L'enfant grandit. Je crois que quand on adopte, il faut faire provision d'éléments, relations, photos, etc. Enfin, il faut faire provision d'éléments dont on a à se servir le jour où l'enfant pose des questions. Voilà. Il ne faut pas rompre le lien.
En parlant du bonheur, comment notre philosophe la définirait-il, le bonheur?
Moi, je suis arrivé à une conception très simple du bonheur. On est heureux à partir du moment où on ne souffre pas. C'est-à-dire que ce bonheur qui consiste à chercher des jouissances supplémentaires, hein, une abondance de biens matériels ou de biens intellectuels, enfin cette course au bonheur comme acquisition de ce que l'on n'a pas, moi je n'y crois pas. Et je me limite à une conception pragmatique du bonheur qui consiste à dire on est heureux à partir du moment où la souffrance n'existe pas, ça c'est pas possible, où la souffrance elle est maîtrisée, elle est supportée, elle est minimisée, voilà. On essaie de contrôler la souffrance. Si on arrive à contrôler cette souffrance qui est inévitable hein, dans l'existence humaine, puisqu'on finit tous mal, je pense que la philosophie peut aider à essayer de contrôler cette souffrance. Ouais. Mais on est toujours dans la notion de résistance.
Est-ce que notre invité, le docteur Francis Métivier, professeur en philosophie, est-ce qu'il est un homme heureux?
Mais là, je ne peux faire qu'une réponse de principe. Si un philosophe répond non, on va aller voir ailleurs ou alors on va être déçu, donc je vais faire une réponse de principe. Oui, je suis heureux.
Quel est votre dernier mot pour conclure?
Merci Franck, je suis très heureux de vous avoir rencontré.
Oui, vous êtes doublement heureux et je vous remercie monsieur Métivier d'avoir tout d'abord de m'avoir fait confiance parce qu'on s'était jamais rencontré, on ne s'était jamais connu. Vous avez accepté ma proposition de participer à cette émission, un inconnu. Je vous en suis très reconnaissant. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation de vos activités personnelles.
Vous également.
Merci.
Merci.
Au revoir.
every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Mesdames et messieurs, amis fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, voilà qui met fin à ce nouveau numéro de Sociopod qui était consacré au professeur de philosophie, M. Francis Métivier. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions ou même une proposition de participation à une éventuelle édition de Sociopod, soyez libre de nous contacter via cette adresse email. francradio@podomatic.com francradio@podomatic.com. Vous pouvez également nous joindre à l'adresse francradio@aol.com francradio@aol.com. Avant de mettre fin à l'émission, je voudrais tout d'abord remercier notre invité, M. Francis Métivier, d'avoir accepté notre invitation pour la réalisation de l'émission. Je remercie également tous les artistes qui ont apporté leur fraternelle contribution au programme, tels que l'artiste français Daniel Piala, le Québécois Andréane Lafleur, que nous aurons la joie d'accueillir bientôt dans Mykonak, et l'artiste suisse Philippe Decourou, qui nous a interprété ce très beau chant entre le rose et le noir. Je remercie également l'artiste Patrick Bernin, l'artiste d'origine sud-africaine qui vit en France actuellement. C'est à lui que nous devons le générique de notre émission. Sans oublier la société Sephora Musique de la Vie pour sa fraternelle collaboration avec cette radio, puisque c'est à Sephora que nous devons les versions instrumentales que vous avez écoutées tout le long de l'émission, ainsi que l'artiste John Featherstone, musicien, compositeur et interprète, dont porte la signature, la version guitare que vous avez écouté en arrière-plan. Je remercie également le service d'accueil de l'hôtel Confort à Paris qui nous a permis de trouver un cadre très sympathique pour l'enregistrement de cette interview. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez branchés depuis le début de l'émission jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et surtout de votre intérêt inconditionnel pour cette radio. Et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Sociopod. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Douristil, qui vous dit une fois de plus merci et au revoir. Vous venez d'écouter Sociopod sur la radio chrétienne Ebenezer International, The Digital Gospel Channel, your station. Je crois qu'un amour attend pour